E, la timidité. La timidité est à la fois un trait de caractère, un type de personnalité, un trouble du comportement et de la relation, une excroissance de la peur et un complexe, c'est-à-dire un mélange d'émotions opposées, complexe d'infériorité. Les composantes de la timidité sont une hypersensibilité. Tout être humain est sensible, certains beaucoup plus que d'autres. Une imagination débordante, déviée par un pessimisme ou un négativisme important. Une image de soi fondamentalement négative. Un esprit critique exacerbé, voire acéré. Et un perfectionnisme négatif. Utilisation de la perfection comme d'un modèle qu'il faudrait avoir atteint. 1. Le complexe d'infériorité. D'où vient ce sentiment universel d'infériorité? De votre enfance, évidemment. Mais pas uniquement de vos parents et des autres éducateurs. C'est votre situation même d'enfant qui a généré ce sentiment. Rappelez-vous d'abord qu'étant bébé, vous étiez totalement inachevé, inapte à la survie et totalement dépendant des autres, contrairement aux autres espèces. Nous sommes donc inférieurs aux animaux sur ce plan-là. Ceux qui critiquent la société feraient bien de se souvenir de tout ce qu'ils ont reçu sans aucune contrepartie, ou presque, un peu de travail à l'école. Il est à noter que cette dépendance augmente avec la civilisation et les siècles. Dans la plupart des sociétés anciennes, les enfants deviennent adultes vers 16 ans, les Romains, ou même plus tôt. 14, 13, 12 ou même 11 ans dans les sociétés primordiales, celles que l'on qualifie de primitives. Et ce passage de l'enfance à la maturité se fait en quelques jours ou quelques heures grâce à des rites de passage souvent très violents. L'adolescence est une création occidentale et récente dans l'histoire. C'est l'obligation d'aller à l'école de plus en plus longtemps qui a repoussé à chaque fois l'âge de la maturité réelle et non légale. Le film Tanguy tourne en dérision cette tendance des enfants à s'incruster au domicile familial. La conséquence de cette prolongation de l'enfance est une prolongation artificielle de la dépendance. C'est ce qui explique, en partie, les crises d'adolescence, puisqu'à l'adolescence, la croissance est quasiment achevée, les corps, et surtout chez les femmes, ainsi que les capacités intellectuelles et de procréation sont arrivées à maturité. Tous les enfants se sentent donc plus ou moins infériorisés, dominés, écrasés et frustrés par les adultes pendant des années. La prolongation de cette frustration et de cette infériorité est insupportable et elle génère une réaction plus ou moins consciente de compensation. C'est Alfred Adler qui a découvert l'importance de ce sentiment d'infériorité chez l'enfant et de ce mécanisme de compensation dans la construction de la personnalité de l'adulte. Ce sentiment s'appuie évidemment sur toutes les maladies, affections, singularités et infirmités physiques ou psychiques, une taille très petite ou au contraire très grande. Des oreilles décollées, une dissymétrie oculaire, des cheveux roux, une origine ou une langue étrangère, une religion différente, une intelligence limitée ou au contraire vive, une maturité précoce ou en retard, etc. Ce sentiment d'infériorité utilise toutes les différences de toutes sortes comme un prétexte pour s'objectiver et se justifier. Pour Adler, ce sentiment d'infériorité persiste indéfiniment. Ainsi, l'enfant puis l'adulte passe sa vie à le compenser de toutes les façons possibles. Il y réussit plus ou moins bien, plus ou moins durablement. C'est pourquoi la lutte n'est jamais gagnée et c'est pourquoi la compensation devient une surcompensation, source de nos qualités, de nos compétences et de nos réussites les plus spectaculaires, comme le bec Démosthène, qui devint le plus grand orateur de la Grèce antique. Mais il s'agit d'un complexe. Au fond, nous ne sommes ni dupes, ni jamais vraiment heureux, comme Marilyn Monroe, devenue la plus grande séductrice de son époque, pour tenter de combler un vide affectif, paternel, insupportable. D'où sa dépression, sa folie et sans doute son suicide. Le complexe d'infériorité est donc la superposition de deux sentiments contradictoires. Un sentiment d'infériorité, souvent inconscient, et un sentiment artificiel de supériorité affichée. Ces deux sentiments plus ou moins conscients luttent en permanence et dominent, à tour de rôle, la conscience du sujet. C'est ce qui explique l'alternance des attitudes et des discours sur soi. Je suis le meilleur, je suis le plus nul. Ce qui trahit le complexe d'infériorité, c'est justement le besoin irrépressible d'affirmer sa supériorité aux yeux des autres, mais en réalité, surtout à soi-même. Un individu conscient de sa valeur n'éprouve pas ce besoin de se rehausser sans arrêt, comme pour museler la petite voix intérieure qui affirme le contraire. 2. Les relations familiales et fraternelles. L'enfant, qui n'est pas encore structuré, construit sa personnalité en observant et en imitant ses parents. Mais il construit aussi ses relations en observant et en imitant les relations au sein de sa famille. Si, par exemple, les deux parents préfèrent un autre enfant, voire plusieurs autres, alors il en déduit qu'il n'est pas vraiment aimable. Et cette déduction construit durablement sa personnalité. Évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Il se peut que l'un des parents préfère la petite sœur, mais pas l'autre, ou l'inverse. Plus il y a d'enfants et plus la hiérarchie est complexe et susceptible de changer. Car les sentiments ont une inertie plus grande que les émotions, mais peuvent néanmoins évoluer, notamment à la naissance d'un enfant, ou l'heure de son départ, ou sa disparition. En fait, tout événement marquant peut remettre les compteurs à zéro et bouleverser cette hiérarchie affective. Et plus cette histoire familiale est complexe, plus il est difficile de dénouer les fils d'Ariane sentimentaux qui nous emprisonnent. Ce qui importe est moins la réalité des sentiments et des préférences des parents que la perception qu'en a l'enfant. D'ailleurs, les parents reconnaissent rarement leurs préférences, soit qu'ils ne les assument pas, soit qu'ils n'en ont pas conscience. Si vous pensez que vos parents préféraient vos autres frères et sœurs, vous vous êtes dévalorisé et avez perdu une part importante de votre amour de vous-même, de votre estime de vous-même et de votre confiance en vous, que cela soit vrai ou faux. Voici maintenant un exercice. Pour retrouver la source de vos carences sur le plan de votre image, posez-vous les questions suivantes. Selon vous, quelle place dans la hiérarchie affective occupiez-vous pour chacun des membres de votre famille? Par exemple, étiez-vous le préféré, le souffre-douleur, ou ni l'un ni l'autre, de votre mère? Étiez-vous le préféré, le souffre-douleur, ou ni l'un ni l'autre, de votre père? Étiez-vous le préféré, le souffre-douleur, ou ni l'un ni l'autre, de chacun de vos grands-parents? Avez-vous eu dans votre enfance, de préférence à la maison, quelqu'un pour compenser une mauvaise place? Et si oui, qui était-ce? Une tante? Un ami de la famille? Un voisin? Avez-vous eu à l'extérieur quelqu'un pour vous soutenir, vous reconstruire ou vous aimer? Un professeur? Un prêtre? Quelqu'un d'autre? Selon vous, dans votre famille, étiez-vous perçu comme le plus ou le moins intelligent? Autrement dit, quelle place dans la hiérarchie intellectuelle, scolaire puis professionnelle, occupiez-vous? Pour votre mère? Pour votre père? Pour vos grands-parents? Avez-vous eu quelqu'un pour compenser une mauvaise place dans ce contexte? Et si oui, qui était-ce? Une tante? Un ami de la famille? Un voisin? Un professeur? Un prêtre? Ou quelqu'un d'autre? Selon vous, dans quelle mesure les membres de votre famille vous faisaient-ils confiance pour agir? Autrement dit, quelle place dans la hiérarchie de l'action, sport, cuisine, bricolage, vie domestique ou vie tout court, occupiez-vous? Pour votre mère? Pour votre père? Pour vos grands-parents? Avez-vous eu quelqu'un pour compenser une mauvaise place dans ce contexte? Et si oui, qui était-ce? Une tante? Un ami de la famille? Un voisin? Un professeur? Un prêtre? Quelqu'un d'autre? Que vous apprend cet exercice? Il devrait, en tout cas, vous permettre de relativiser votre image de vous-même et de diminuer l'impact négatif de votre enfance. Dites-vous que vous avez construit votre image avec les éléments fournis par votre entourage. Par conséquent, vous n'avez rien à vous reprocher. On ne construit pas une maison sans matériaux de construction et sans outils.